octobre au Toy Toy pour un super concert avec les Chevaux Hongrois et l'Ovatarax. Alors venez nombreux et nombreuses. Oui, au Toy Toy
à Villeurbanne. Voilà. Pour la modique somme de 6,50€. Alors venez parce que ça vaut le détour.
Voilà, ça
avec vos pagaies, hein, ça coule de source.
Venez nombreux et nombreuses.
Qu'est-ce qu'on a pu entendre? Les textes de Greg qui étaient...
C'était pas les miens, c'était ceux de Aimé Césaire. Je suis tombé sur un ouvrage qui s'appelle Cahier d'un retour au pays natal, que je conseille à tout le monde. C'est chez Présence Africaine. Peut-être difficile à trouver, mais en tout cas, une fois qu'on l'a trouvé, waouh!
Quelle
force!
On le lit, on le partage.
Il n'est pas impossible que j'en relise dans d'autres émissions. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié.
Vous avez pu entendre les textes, enfin un extrait d'un texte superbe de la Lyonnaise Noémie Lefebvre, poétique de l'emploi chez Vertical. Et puis un texte aussi que j'ai écrit, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle tout simplement, et efficace, Vous m'emmerdez les gens, avec en musique de fond G23, Yenueri, Ira. Julie.
Et également pour moi, un texte écrit par mes petits soins, sans titre, voilà. Et autrement, Vision du CRA, d'Henri et Pierre Ziegelmeier, donc, qui sont des amis de la pataphysique, donc les, pas loin des Oulipiens, mais une autre planète. Autrement, Note de bois de Thomas Vino. Donc Thomas Vino que... vous m'aviez fait découvrir Delphine et Anita avec Le camp des autres. Et donc là, c'est des notes de ce qu'il aperçoit, de ses rêveries, quand en fait il doit travailler, mais qu'en fait il écrit, il regarde ailleurs.
Oui, et je voudrais juste dire que j'ai aussi fait une reprise de Rossé. Le rap, c'était pas écrit par moi-même, mais par Rossé. Et voilà, c'est issu de l'album Top Départ, et ça s'appelle On s'habitue, c'est tout.
Côté musique, on a entendu aussi Fig in Lever, Devendra Banhart. L'excellent Agar Agar, I'm That Guy. Est-ce qu'on a fait le tour de la popote?
Ouais, et oui. On va laisser...
La place aux copains. On vous laisse en musique. Allez, on vous dit à bientôt avec Joe. John Mouse.
Et à vendredi.
Arrivederci.
Allez, des bisous.
À vendredi au zinc.
chez c'est ses mères. J'aime pas d'injure, c'est ses fêtes. Ta meuf à la forme d'une chétée d'elle. Elle met le moulin, elle laisse crèche. Aïe sur nos plats, c'est nec. Veulent qu'il gros, c'est une spice. J'mix ça comme truc au dev.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
On fait, on donnait de leur sueur, donnait de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Salut.
Oui, salut. Salut. Ouais. On est à l'antenne, je crois. Ouais. Aujourd'hui, alors, de quoi on va parler ? On va parler d'abord à l'international de la Syrie. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle crise humanitaire ? Ensuite, on parlera d'Alpha Condé avec un compte-rendu d'une interview.
Ouais, avec du journaliste, il faut le signaler, ici, des journalistes français.
On parlera ensuite de SICOBAS, soit la création potentielle d'un front antiraciste européen. Au national, on parlera de Pécresse et de sa loi ghetto, pour enchaîner avec la grève des femmes de chambre à l'hôtel Hayat. Puis, on parlera de Balkany, qui s'augmenterait de 56%, et des violences policières à Montpellier, pour finir le national avec les négociations de l'assurance chômage. Et au local, on parlera surtout de l'occupation du lycée Maurice-Sève. On aura aussi un dossier, un reportage sur la manif contre Dublin, contre le Dublinage, et peut-être suspense en interview, même si on va peut-être pas l'annoncer.
Visiblement. <non.
rire> Visiblement pas. Bah, du coup, c'est parti pour la Syrie.
Oui, en fait, actuellement, il y a eu une nouvelle crise humanitaire en Syrie. Dernièrement, le mercredi 27, des raids meurtriers ont frappé les territoires rebelles dans le sud syrien. Les organisations humanitaires tirant la sonnette d'alarme face à l'offensive du régime de Bachar al-Assad et de son allié russe, qui fait craindre en fait une nouvelle crise humanitaire. L'horaire ne connaît aucune limite en Syrie, où les enfants sont encore une fois pris entre deux feux. Dans la dernière vague de violence qui ravage le Sud, a déploré dans un communiqué la directrice du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Henrietta Fore, c'est qu'il y a des enfants et des familles qui ont vraiment besoin de nourriture, de médicaments et de protection, a-t-elle insisté. Au total, au moins 56 civils ont été tués depuis le début des opérations dans les provinces de Dera depuis le 19 juin. Et la ville de Dera, en fait, s'est située dans le sud de la Syrie, à la frontière avec la Jordanie. Et Bachar al-Assad, en effet, après avoir consolidé son pouvoir sur la capitale Damas et ses environs, en chassant les factions rebelles, les groupes djihadistes, et il a porté en fait son attention actuellement vers le sud, une région sensible bordant la frontière avec la Jordanie et le plateau du Golan, en partie occupé par Israël. En fait, des dizaines de milliers de personnes continuent de fuir. Et les forces du régime, appuyées par des raids russes, ont lancé mardi une offensive contre les quartiers insurgés de la ville de Dera. Et après une semaine de bombardements meurtriers visant principalement l'est de la province, mercredi encore, 10 civils, dont 3 enfants, ont été tués dans les raids aériens. Et des tirs d'artillerie visant l'est de la province de Dera, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Donc on doit vraiment tirer la sonnette d'alarme concernant cette nouvelle crise humanitaire en Syrie.
Et on va enchaîner directement avec Alpha Condé.
Alors là, on va parler d'Alpha Condé. On ne va pas dire que c'est une crise humanitaire, mais de toute façon aussi, c'est une crise politique qui aujourd'hui passe en Guinée. Donc il faut rappeler le 2 octobre 1958, 10 octobre 2018, 60 ans jour pour jour depuis que la Guinée ait eu son indépendance. À l'occasion de cette fête symbolique, plusieurs médias internationaux sont en Guinée. Notamment, on peut citer par exemple France 24, RFI, vous savez, RFI c'est Radio France Internationale et TV5 Monde. Le président Alpha Condé a reçu des journalistes de ces médias pour citer. Par exemple, on peut donner le nom de certains journalistes. Françoise Joly, présentatrice de l'émission internationale sur TV5 Monde depuis 2013. Elle était accompagnée par Sophia Malibo de la RFI et Christophe Salto du journal Le Monde pour une interview de 45 minutes au palais présidentiel. Alors, pour préparer le terrain, la journaliste du TV5 Monde a choisi d'abord des images des cérémonies de la victoire de l'équipe de France mondiale 2018 pour demander au président son avis sur la contribution du milieu 6 Paul Pogba d'origine guinéenne sur cette victoire. Alpha Condé lui répond avec mépris et orgueilleux, car il dit « Nous sommes contents qu'un élément d'origine guinéenne participe à la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde. » Jusque-là, on peut dire que tout se passe bien, même s'il ne s'empêche pas de rappeler que la Guinée est eu par le passé des grands footballeurs, puisque selon lui, la Guinée s'est organisée dès qu'elle a obtenu son indépendance pour produire des joueurs, selon lui. Donc il entend dire par là, même si Paul Pogba a apporté, disons, à la France et non à la Guinée, mais son pays, lui, Alpha Condé, a eu des joueurs de qualité qui ont joué pour la Guinée. Or, depuis que la Guinée ait eu son indépendance, son équipe nationale n'a jamais qualifié en demi-finale en Coupe d'Afrique Nation. Elle n'a jamais aussi participé à une Coupe du Monde, par les fautes, disons, de tous les gouvernements qui sont succédés depuis l'indépendance jusqu'à de nos jours. Y compris d'ailleurs le gouvernement d'Alpha Condé, qui n'a pas compris le sens de gouvernance et l'importance du sport dans un pays. Mais ce n'est pas par hasard si le président Alpha Condé a fait recours aux événements historiques sportifs pour répondre à cette première question. C'est une façon pour lui de rappeler aux journalistes qu'il reçoit ces journalistes pour parler de l'indépendance et non des festivités prévues et non des festivités, disons, des réalités, parce que quand on regarde l'interview, au beau milieu de l'interview, on va avoir un président qui est énervé. D'ailleurs, il sait, c'est son habitude, il parle mal aux médias quand on lui pose la question de savoir est-ce qu'il va se présenter pour un troisième mandat. Mais ignorant que les journalistes sont préparés pour l'affronter, les minutes qui ont suivi le président Alpha Condé dans cette interview changent des mines, puisqu'il est rendu compte que les 40 minutes seront longues et dures. Des dossiers qu'il ne voudrait pas aborder s'est remis sur table. Notamment, on parle du massacre du 28 septembre. La grogne sociale, les mouvements syndicaux sont prosés, exprimés de façon explicite de violer la constitution guinéenne pour un troisième mandat. Donc, il s'est vite mis à l'offensive dans cette interview. Il s'excuse à toutes les questions que les journalistes lui ont posées. On peut voir, pour répondre aux journalistes, lui, il dit que la Guinée va mieux. Alors, il dit que la Guinée va mieux. Si la Guinée va mieux, pourquoi alors toutes ces crises au niveau de la Cour constitutionnelle? Si la Guinée va mieux, pourquoi les syndicats des enseignants menacent d'empêcher l'ouverture des classes? Si la Guinée va mieux, pourquoi attendre après 6 mois pour installer les conseillers communaux? Si la Guinée va mieux, Monsieur le Président, pourquoi l'opposition menace de sortir dans les rues? Si elle va mieux, pourquoi les journalistes sont intimidés? Vous vous dites que vous n'avez rien trouvé en Guinée. Vous avez dit que vous avez hérité un pays et non un État. Vous vous demandez qu'est-ce que vous avez trouvé en Guinée. La bonne question, je pense, Monsieur le Président, demandez-vous qu'est-ce que vous avez fait en Guinée, qu'est-ce que vous avez apporté. La question de savoir si, en 2 ans, vous allez arriver avec un bilan positif, quel mépris, Monsieur le Président. Oui, il dit, il répond aux journalistes que réellement, il ne parle même pas à la radio, aux médias étrangers, parce que ce ne sont pas ces médias qui lui ont donné, si vous voulez, la victoire. C'est le lui des élections de 2010 et 2015. Mais seulement, lui, il oublie réellement, Alpha Condé, il a oublié que ce pays appartient aussi à tous les Guinéens, pas seulement lui. Mais il a mal compris, il a mal interprété les réalités du pays. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Parce que, si vous voulez, quelque part, il est venu avec une ambition, selon lui, de diriger, mais au fond, je pense qu'il n'a pas dirigé, je pense qu'il a raté. Donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette interview qu'il a réalisé avec des médias étrangers.
Eh bien merci. Et maintenant on vous propose de découvrir ce que veut dire Sikobas.
Alors Sikobas, en fait, pour vous faire découvrir Sikobas, je vais vous raconter en fait moi ce que j'ai fait le week-end dernier tout simplement, et j'ai été invité.
Oui, on était un peu en galère de sujet, donc on va chacun notre tour raconter notre week-end. Voilà, désolé, hein. Un peu fatigué là, c'est la rentrée.
Et donc non, c'était un week-end très très sympathique, mais aussi quand même un week-end de travail où j'ai accompagné des camarades de syndicats solidaires on a répondu à un appel donc de ce groupe qui s'appelle Sikobas et qui est un syndicat en fait italien pour la constitution d'un front antiraciste européen. Donc on avait reçu un appel qui avait l'air assez intéressant et on est allé voir sur place. Et donc on a découvert chose de vraiment, vraiment, qui nous a paru vraiment extrêmement sympathique et classe. Et donc je vais essayer en quelques minutes de revenir là-dessus. Donc Sikobas, qui sont-ils? En fait, Sikobas, ça veut dire syndicat intercatégoriel de base. Donc Cobas de base. Les syndicats de base, les Cobas, sont des syndicats apparus dans les années 80 en Italie qui se sont quand même multipliés, qui avaient pour but de former des nouvelles formes de syndicats pour un peu résister à la lourdeur de l'administration des trois grandes centrales syndicales qui passaient quand même beaucoup de temps, comme en France, à passer des accords réguliers avec le gouvernement et qui ne représentaient plus la réalité en fait, des travailleurs sur le terrain notamment. Donc que tous ces syndicats sont créés à droite à gauche, dans plein de dimensions et dans plein de types d'industries, ont réussi par un activisme extrêmement puissant à obtenir un certain nombre de luttes par des formes une création de formes quand même beaucoup plus légères que les grandes centrales qui existaient et par le fait qu'ils étaient extrêmement offensifs, que régulièrement ils sont en grève très régulièrement, qu'ils arrivent à fédérer beaucoup de monde derrière eux et que jusqu'à maintenant, bah, les victoires en entraînant d'autres, ils arrivent à être assez populaires parmi les travailleurs. Donc Sikobas en particulier, c'est un des nombreux syndicats de base en Italie et qui a pour particularité d'être composé à plus de 90% de travailleurs immigrés et qui s'est constitué il y a moins de 15 ans et qui a réussi à fédérer plus de 15 000 personnes à l'heure actuelle. Donc ce syndicat est majoritairement présent dans la thématique de la logistique et des transports. Il se développe à l'heure actuelle notamment sur les questions agricoles où sont présents un très grand nombre les travailleurs migrants en Italie. Ils ont comme pour particularité de travailler majoritairement
dont sur, dont avec les travailleurs migrants, de travailler sur la question de l'emploi et du salaire, et avec une vision de la politique en disant que, avant de considérer les personnes comme des migrants, ils les considèrent comme des travailleurs et ont une approche de classe. En clair, tous les travailleurs, en fait, qu'ils soient migrants ou autochtones, sont les mêmes, ont le droit au même droit d'où qu'ils viennent, et que ça doit être la priorité de leur combat au quotidien. Donc, ce qui fait que le fait d'être dans la logistique leur permet en fait de bloquer très très facilement beaucoup de choses et donc d'être assez entendus. Donc très régulièrement ils bloquent des dépôts, ils bloquent des camions, ils bloquent des voies, sachant qu'ils en sont à peu près, enfin dans leur statistique interne, ils sont à peu près à une grève par jour l'année dernière dans l'ensemble du pays. Donc c'est quand même une grève, mouvement ou manifestation, donc c'est quand même extrêmement intéressant. C'est un syndicat qui se développe parce que ils multiplient les victoires, et donc de plus en plus de travailleurs migrants viennent les voir pour s'organiser avec eux. Donc là, comme je disais, ils commencent à arriver de plus en plus dans le sud de l'Italie pour fédérer entre les travailleurs de l'agriculture. Et donc, en gros, ils nous ont donc invités ce week-end, le week-end dernier, à Bologne, où nous étions donc, pour essayer de continuer à travailler en fait avec une fédération internationale syndicale pour la création d'un front antiraciste européen qui aurait pour but justement de fédérer au niveau européen tous les syndicats, groupes, partis politiques qui veulent travailler sur ces questions-là pour lutter contre l'exploitation des travailleurs migrants. Donc ils se revendiquent donc évidemment antiracistes, ils ont aussi un gros travail qui est très intéressant sur l'ensemble des questions féministes, où en Italie, en fait, 51% des migrants sont des femmes, donc il y a des sections féministes qui travaillent là-dessus. Ils ont un discours extrêmement intéressant qui a été plusieurs camarades sur place qu'on a pu écouter, ce dont on a compris des traductions, mettait vraiment en avant en fait toute la question du travail des femmes et particularités qui en découlaient et qui voulaient revendiquer comme toutes les autres italiennes. Donc elles travaillent aussi sur la question du logement, notamment à Rome, on les a vus un peu partout. Et pendant ce week-end, nous étions quand même présents de pas mal de pays. Il y avait donc des Italiens d'à peu près de tout le pays, de toutes les villes. Il y avait des Américains qui étaient là, il y avait des Anglais, des Allemands. Il y avait des représentants de pas mal de pays du pourtour méditerranéen qui sont devenus travailleurs migrants en Italie, mais qui aussi ont des liens encore dans leur pays avec leurs syndicats, que ce soit l'Égypte, le Maroc, un Syrien qui était là aussi. Et un Iranien, si je ne me trompe pas. Et tous ensemble, on a discuté, chacun a exposé, suite à de nombreuses et assez longues, faut admettre, interventions, a expliqué leurs différents points de vue, et ont posé les premières bases de ce grand rassemblement européen. Donc on espère, nous, pour l'instant, que ça va se développer, ça va continuer à se construire. En tout cas, nous, entre la France et l'Italie, on a beaucoup, beaucoup de choses à construire pour aider tous les camarades migrants qui viennent, et c'est... des choses même pour entendre sur la question syndicale dont je pense qu'on pourrait s'inspirer pour justement redescendre le plus bas possible sur le terrain, être le plus offensif possible et continuer à mener des luttes, parce qu'en fait, eux nous prouvent à l'heure actuelle que quand les gens sur la base se bougent, ça marche.
D'ailleurs, on le verra tout à l'heure sur une grève de femmes de chambre à Paris qui prend un peu cette auto-organisation, surtout à l'encontre des directions syndicales qui ne sont pas toujours très à même de mener des luttes victorieuses, et qui, depuis quelques années à Paris, ont obtenu quand même de grandes victoires, notamment sur les questions des salaires.
Ouais, c'est dommage qu'on n'en ait pas fait une transition comme ça. Mais là, puisqu'apparemment il est mort, on va prendre le temps d'écouter un morceau.
C'est ça, apparemment, il est mort.
Mais moi, j'ai pas vu l'information.
Mais on a le médecin légiste dans le studio, du coup, il peut nous confirmer le décès. T'es intervenu à quelle heure ?
Alors c'est un complot et tous les médias mentent, mais bon.
Et avec Tupac et Michael Jackson sur une île.
Ah. Et du coup, on écoute La Bohème d'Aznavour.
Ah, il a bien changé, le grand Charles, depuis qu'il est mort.
94 ans, le mec.
Et voilà, c'est son dernier album en exclusivité que vous découvrez sur l'antenne de Radio Canu.
À tout à l'heure.
Deuxième tentative.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire, et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. Tu es jolie, la bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Parfois il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Voilà.
Alors donc c'était Charles Aznavour, la bohème. Alors bon, on lui faisait une petite casse dédie. Bon, on rappelle quand même qu'il était proche des cercles du pouvoir, hein, ce monsieur. Et que par exemple la semaine dernière il était présent à l'avenue du nouvel empereur du Japon avec Françoise Nyssen, avec Emmanuel Macron, etc. et qu'ils se connaissaient tous bien. Donc on l'a mis parce qu'il a une belle voix, mais on va pas lui faire non plus un hommage de malade. Hein.
C'était déjà pas mal. Et après ça, on va parler de Pécresse.
Oui, parce que cette semaine, la palme de la bonne idée bien réac est attribuée donc à Valérie Pécresse. Et oui, la présidente du Conseil régional d'Île-de-France était invitée hier sur RTL pour proposer tout plein de mesures hyper, hyper intéressantes. Alors, parmi les propositions qui n'ont rien envié au programme du Front National, on trouve l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans pour les crimes violents, vieux leitmotiv des réacs de tous bords, l'augmentation des places de prison, ben, pas pour améliorer les conditions de détention, hein, mais bien pour systématiser le recours aux peines de prison ferme, le recours ensuite à des brigades mobiles d'urgence dans les lycées. On fait un gros gros big up à tous les lycéens franciliens qui vont passer une super année, ou encore l'armement systématique des policiers municipaux dans les grandes villes. Mais la proposition la plus cool reste incontestablement celle qui consiste à doubler les peines dans les quartiers les plus criminogènes. Bon voilà, c'est-à-dire que si tu habites dans un quartier considéré comme criminogène, tu iras deux fois plus longtemps en prison. Alors, Valérie Pécresse a beau être très très en pointe au niveau de la réaction, elle n'a pas eu cette idée, somme toute, tout à fait brillante toute seule. Elle s'est inspirée des grandes lois dites ghetto qui ont été promulguées cet été au Danemark et dont les vieux relents racistes nous avaient déjà bien mis la nausée. Alors, il s'agissait exactement de la même chose, c'est-à-dire de donner une double peine aux habitants des quartiers considérés comme difficiles et où la criminalité est particulièrement élevée. Bon, là, on a bien compris que c'est un certain type de criminalité qui est visé. Je ne suis pas sûre que, que tous les délinquants fiscaux bénéficieront du même genre de traitement, sinon ce serait à Neuilly que les peines seraient particulièrement élevées. Donc voilà, les habitants des quartiers populaires, qui sont souvent issus de l'immigration, subiront les effets d'une double répression en fonction uniquement de leur lieu de résidence. Pardon, je vais y arriver. De leur lieu de résidence, ça fait tout de suite rêver. Et tout ça, Valérie Pécresse le fait pour contrer la montée de l'extrême droite. Merci Valérie pour ces idées brillantes. C'est vrai qu'user les vieilles recettes de cette même extrême droite pour banaliser des mesures parfaitement discriminatoires et racistes, c'est la meilleure manière de devenir soi-même d'extrême droite. Et Valérie Pécresse semble tout à fait douée pour reprendre à son compte les pires mesures répressives dont l'Europe est accouchée ces derniers mois. On espère quand même que ces idées iront pas ramper trop loin et qu'elles donneront pas d'idées au gouvernement, par exemple, ou au futur gouvernement.
Ou à notre président de région, Laurent Wauquiez. Ah ben non, nous, ce sera encore pire.
Je sais pas s'ils ont besoin de se donner des idées les uns les autres. Et donc, sans transition, mais comme annoncé, on va parler maintenant des femmes de chambre de l'hôtel Hayat.
Alors, à Paris, l'hôtel Hayat, qu'est-ce que c'est que cet hôtel ? C'est un hôtel de luxe, donc pour les riches et les très riches. Hein. Je vous déconseille d'essayer d'aller prendre une chambre là-bas. C'est rue de la Paix, vous savez, dans le Monopoly, la rue de la Paix, c'est la rue la plus chère. Ben, c'est pas pour rien, parce que c'est aussi la plus chère pour cet hôtel, notamment. Alors, ces derniers jours, ce ne sont pas les voitures de luxe hein, et les ultra-bourgeois qui sont pavanés devant, mais des travailleurs et surtout des travailleuses qui se mobilisent pour mettre fin à la sous-traitance, à l'exploitation et à l'humiliation qu'ils et surtout elles subissent tous les jours. Donc depuis le 25 septembre, le personnel de l'hôtel est en grève et en premier lieu, les femmes de chambre dont les conditions de travail sont proches de l'esclavage. Pression, surcharge de travail, difficulté des tâches physiques et épuisantes, heures non payées. Les femmes de chambre en grève, pour la plupart d'origine étrangère, certaines sont sans papier, expliquent que les lits très bas qui les forcent à se baisser pour en changer les draps ou encore la qualité pourrie des produits d'entretien leur abîment le dos, leur abîment les mains, dans la totale indifférence de la direction. À cette pénibilité s'ajoute la précarité pour la plupart d'entre elles, encore moins bien payées par rapport aux salariés d'autres hôtels du même rang qui sont déjà très mal payés hein, et dont une majeure partie est employée en sous-traitance, donc privée de tout espoir d'être un jour salarié de l'hôtel, ou de bénéficier d'augmentation ou de progresser au sein de l'entreprise, et ce même après 10 ans de service pour certains d'entre eux entre elles. Hein. Alors donc, la sous-traitance, hein, pour expliquer, hein, c'est l'hôtel donc, qui va demander à une entreprise via un appel d'offres et qui choisit une entreprise, souvent puisque c'est la moins chère, hein, de venir donc faire le sale boulot dans cet hôtel. Alors voilà.
Ce qui permet, ouais. Je précise, vas-y, ce qui vas-y. Permet aux entreprises de ne pas appliquer leur propre convention collective pour ces salariés-là ou des avantages dont bénéficient leurs salariés qui n'appliquent du coup pas à ces femmes de chambre.
Voilà, les conventions collectives n'existent pas grâce à cette sous-traitance. C'est une bonne technique hein, pour les hôteliers de ne pas avoir à respecter tout ça. Donc.
Même y compris, alors que la sous-traitance est quand même régie par un certain nombre de lois qui permettent d'encadrer le recours à la sous-traitance. Et normalement, par exemple, on ne peut pas sous-traiter ce qui relève de l'activité principale. Or, les grands hôtels, ils passent sur le côté de cette restriction-là, alors que le fait de faire le ménage dans les chambres, c'est quand même absolument fondamental quand notre activité, c'est de l'hôtellerie. Quoi.
Alors, du coup, cette grève, elle est lancée par celles et ceux qui... Sans qui l'hôtel pardon, ne serait rien et qui ne voit pas la couleur des millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. C'est bien des millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors les revendications, elles sont embauche directe par l'hôtel, hein, donc fin de la sous-traitance, augmentation des salaires, remboursement des frais de transport, mise en place de représentants ou encore ouverture d'un compte pénibilité pour chaque salarié effectuant un travail répétitif, pénible, de jour ou de nuit. Alors certaines des femmes de chambre disent que cette fois-ci elles iront jusqu'au bout. Cette grève dans le secteur de la sous-traitance, notamment au sein de l'hôtellerie, elle n'est pas du tout inédite ces dernières années. Elle fait suite à de nombreuses grèves qui dénoncent une exploitation inacceptable dans ce secteur. Depuis 2013, donc en effet, des grèves s'y succèdent et plusieurs ont été victorieuses et massives. Et bien souvent, pas grâce aux organisations syndicales majoritaires dans ce secteur qui, pour certaines, ont des comportements quasi mafieux hein, et qui n'hésitent pas à détourner de l'argent pour les bureaucrates de ces organisations. Donc bon courage surtout donc, aux femmes de chambre, hein, aux travailleurs et travailleuses de l'hôtel Hayat à Paris, puisque la plupart des grèves de ces dernières années ont été victorieuses en termes revendicatifs, en termes salariales.
On fait quand même une dédicace à la CGT-HPE qui, pour le coup, est une section extrêmement combative et qui s'occupe particulièrement des hôtels de luxe et qui ont réussi à obtenir tout un tas de choses ces dernières années, pas toujours en adéquation avec leur propre direction syndicale.
Et la CNTSO également.
Oui. Alors, espérons qu'elles vont sortir victorieuses de cette situation. Mais d'ici là, on va aller en musique pour écouter Soy lo que soy, la fuera et Reka Balain.
Rebeca Lane,
oh.
La Furia.
Escupo cuando siento el coro de lamento. No quedarán adentro los dolores de mis huesos. Universos paralelos, me voy lejos. Leo lento mis sueños más macabros para entender. Soy consciente y hace rato colocarlos me hace libre. No me paran los ayeres ni los antes. No me importa lo que digan quienes piensan que algo saben. Quien me quiera que toque la puerta suave de este fuerte. No importa si perdiste el norte. Hay mareas sanadoras y casas oliendo a muerte. Siempre en fuegos enemigos con cuchillos en los dientes. Me agarré fuerte a mi vientre y cogí aire, menos mal. La paz es con sitio propio en este umbral. Con heridas aún abiertas compartiendo el caminar. Soy ave fénix, soy roca de manantial. Soy la furia, no hay caída que no pueda levantar. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí y la pena valió. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer tengo aliento para continuar. A veces he tomado más de lo que debo y ahora me debo perdonar. Lo he entregado todo y todo lo he perdido y en el vacío puede ser que me haya preguntado si valió la pena y si lo volvería a hacer. Y aunque quiera borrar lo que pasó y aunque quiera olvidar lo que ayer dolió, hoy soy lo que soy y lo que sucedió me hizo fuerte. Soy la que sobrevivió, soy la que escribe en la espalda de la luna la fortuna de su propio destino, la que en sueños intuye designios, la que forja su propio camino. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí, pero mírame hoy. Soy lo que soy, orgullosa estoy. Ayer caí y la pena valió. Soy lo que soy, orgullosa.
Alors, à présent, on écoutait Soy lo que soy. Peut-être que vous savez ce que veut dire Soy lo que soy, non ?
Pas du tout. Moi,
je suis ce que je suis.
Ok, merci. Alors, on va continuer maintenant au niveau national. On va parler des Balkany.
Balkany, oui.
Balkany s'augmente de 56%. On va parler ça tout à l'heure avec notre collègue. Et c'est parti.
Le tout à l'heure arrive vite. C'est la relativité du temps et Radio Canu, c'est toujours beau. Alors, donc, oui, donc Balkany. Parce que tout à l'heure, on parlait justement de certaines zones qui étaient dangereuses et qui avaient une très grande criminalité qui fait doubler les peines. Bien, en attendant, il y en a un qui, dans son fief, a multiplié les peines et qui, pour compenser ça, a multiplié son salaire. Donc, ce cher Balkany, ce pauvre homme qui avait arrêté son mandat de député, n'était redevenu que plus que maire, et se trouvait donc fort démuni. Il avait seulement plus. Alors, il était passé, il faut l'avouer, de plus de 8 000 euros par mois à peine 3 000. S'est dit, bah écoutez, il n'y a pas de raison, la loi m'autorise à pousser ça un peu plus haut, il n'y a pas de raison, je n'en profite pas. Il s'est donc augmenté généreusement de plus de 56% sans aucune raison. Et.
Bah si, il avait le droit.
Oui, c'est vrai.
Pour gagner plus.
Oui, oui. Certes, c'est une raison valable. C'est vu comme ça. C'est vu comme ça, ça se tient. Mais donc, oui, donc on va le défendre. Alors, faisons un éloge de Balkany et du respect de la loi. Non, de façon plus. En plus, ce qui est assez drôle à voir, c'est qu'il a quand même utilisé, vu qu'en fait, la loi autorise une enveloppe globale entre l'ensemble des conseillers, bah en fait, il a piqué un peu de thunes à tous ses conseillers municipaux pour pouvoir récupérer cette augmentation. Donc, l'ensemble de l'équipe municipale a perdu de l'argent.
Mais qui ont eux-mêmes voté pour son augmentation. C'est donc
oui, c'est génial, c'est beau. Je sens que ça doit être une relation absolument totalement belle.
En même temps, quand il était député et qu'il ne pouvait pas toucher tout cet argent, je crois qu'il reversait une partie de la somme à ses adjoints, du coup...
Ah ben oui, après il a l'habitude, ça c'est une grande habitude chez lui, de prendre l'argent qui lui appartient pas pour le reverser à d'autres personnes, surtout les plus démunis, comme on pourra le voir dans les nombreux autres procès qu'il a, qui dans sa carrière politique ont démarré en 83, et ben dès 85 il avait trouvé la bonne idée de prendre plusieurs employés municipaux qui, ces pauvres personnes, pour les aider, il les faisait travailler avec l'argent de la municipalité pour son seul et unique bénéfice, et notamment pour entretenir sa maison secondaire de Giverny. Donc voilà, c'est pas mal.
Charmante petite bicoque.
Il n'en a pas qu'une, il a une tertiaire, une quatrième, enfin, il en a un peu partout.
À l'époque, en tout cas.
Une maison tertiaire.
Tertiaire, ouais. Secondaire, tertiaire, bah oui.
Tout à fait.
Pas beaucoup de gens qui en ont. Balkany, oui.
Balkany, voilà. Bon, en attendant, donc ça, c'est une de ses premières condamnations. Après, bon, honnêtement, je pense qu'on ne va pas en faire toute la liste parce qu'on a seulement une heure d'émission et que ça ne tiendra pas. Mais en attendant, il est quand même responsable. Il a été condamné à de multiples reprises à rembourser des sommes allant en minimum du demi-million d'euros, ce qui est quand même pas mal pour une seule et même personne, d'argent détourné. Il a employé de nombreux emplois fictifs ou détourné de l'argent public en employant des gens pour son bénéfice personnel. Et qu'il a eu pas mal de procès, qu'il a des insultes publiques et qu'il a été accusé de nombreuses fois pour détournement de fonds. Voilà, donc un grand homme.
Un mec sympa.
C'est un peu un des plus grands délinquants de France aujourd'hui, quand même.
Alors lui, une double peine directe.
Avant, il y avait Dassault, mais bon, il est mort. Maintenant, il reste Balkany. Bon, il y a Sarkozy, il y en a tellement, remarque.
Et c'est pas encore sorti, on attend que les affaires sortent. Et après, ouais, je pense qu'il y a possible que Sarkozy passe devant. Mais donc, en attendant, on a notre champion en titre, Balkany, qui.
Bravo, Balkany.
Mais est-ce que la loi sur la criminalisation, vu qu'en fait, de fait, c'est un des plus grands criminels de France, est-ce que vu que ça se transforme en une zone...
Ça dépend du taux de criminalité de sa commune.
Oui, mais à lui tout seul, il en demande celui de toute la commune. Donc, est-ce que c'est dans une zone dangereuse qualifiée comme criminogène pour
Valérie Pécresse?
Je pense qu'il faudrait voir ça, parce que ça pourrait être très drôle que tous les gens de Levallois-Perret, qui est quand même une ville qui arrive à rembourser en 10 ans l'ensemble de sa dette et ne sait juste pas quoi faire de l'argent, et râle parce que l'État lui en prend trop pour en donner aux communes pauvres, se permet de faire ça.
Après les délinquances, on va parler des violences.
D'autres délinquants.
Alors, les violences policières.
C'est parce que les policiers sont aussi de grands délinquants, il faut le savoir. Et la loi, ils s'en tapent quand même régulièrement, la preuve en est.
Alors, et ils nous tapent, nous, des fois.
Non, moi j'ai jamais rien fait de mal, donc ils me tapent pas. Non. Alors, donc, c'est à Montpellier que ça s'est passé la semaine dernière. Hein. C'est le site La Grita qui a filé l'info. Un supporter niçois, donc de l'OGC Nice, qui est venu à Montpellier pour voir le match, a été violemment frappé par un agent de la CIR, donc c'est la section d'intervention rapide. Donc, la semaine dernière, lourd bilan, il a eu un traumatisme crânien, une fracture du nez pour les choses les plus graves. Donc, ils ont clairement pris sa tête pour un punching ball. Les médias locaux, comme Nice Matin, qu'on vous conseille au niveau lecture, se sont contentés de relayer la version de la préfecture et des forces de l'ordre, comme d'habitude. Mais la réalité est bien différente. puisque en plus de s'être fait défoncer par les keufs, il a eu une garde à vue et il est passé ensuite en comparution immédiate. Sauf que la version des agents de la CIR, donc de cette section d'intervention rapide, a été contredite par la vidéosurveillance. Et oui, parfois, ça peut nous servir à nous, c'est rare, mais en l'occurrence, c'est le cas. Dans les faits,
vive la vidéosurveillance.
Bah, du coup, moi, je pense que c'est bien la vidéosurveillance. Il faudrait qu'il y ait plus de caméras en ville. Et oui, la preuve, regardez. Alors, dans les faits, le supporter a été relaxé et c'est sa version qui a été validée. Il avait, donc au départ, une bouteille en plastique avec du pastis dedans, tranquille. Le stadier lui a demandé de la finir, donc il s'est exécuté, il a fini cul sec, il l'a jeté à la poubelle. Le keuf de la CIR s'est ramené et lui a très clairement mal parlé, l'a menacé pendant au moins 5 minutes. Le supporter lui a dit de se calmer parce qu'il n'avait rien fait, ce qui était vrai. Et là, le mec de la CIR l'a pris à la gorge. En le plaquant contre la grille, le supporter a essayé d'enlever son bras, ce qui se tient quand t'as rien fait, malgré tout. Et là, eh bien, le tabassage en règle a eu lieu. Il a perdu connaissance, hein, ce qui prouve la violence des coups qui lui ont été portés. Les keufs ont mis plusieurs minutes avant d'appeler les pompiers, hein, parce qu'il s'est réveillé et pendant ce temps-là, les pompiers n'étaient toujours pas appelés. Puis, passage au commissariat. Alors, trois membres de la CIR, trois policiers ont témoigné et porté plainte contre lui, les pauvres petits, hein, dont un qui s'est fait prescrire 8 jours d'ITT. Donc, le mec n'était pas blessé, mais il a quand même eu 8 jours d'ITT. Donc, 38 heures de garde à vue, comparution immédiate, un petit téléphone qui sonne pendant l'émission. Voilà.
Comme quoi, ça capte ici.
C'est beau.
Donc, très bien.
38 heures de garde à vue, procès. Alors, et heureusement, son avocat, son avocate, a réussi à faire venir les images des caméras. Donc, et il a réussi à s'en sortir comme ça. Il a été relaxé. Donc, un nouveau cas de violence policière, 3 faux témoignages et des fausses ITT faites par le médecin qui a quand même donné 8 jours d'ITT à un flic qui n'avait en fait rien. Donc, ça fait quand même 4 fonctionnaires, 3 policiers et un médecin qui ont raconté n'importe quoi et qui ont tabassé un mec.
C'est peut-être eux qui avaient fini la bouteille de pastis, en fait.
Peut-être.
Et bah maintenant, on va prendre des nouvelles de l'assurance chômage.
Bah on va prendre des nouvelles. C'est les premières qu'on a, hein, puisque Édouard Philippe a envoyé la semaine dernière une charmante missive aux partenaires sociaux. La lettre cadre pour les négociations sur l'assurance chômage, on savait que ça allait arriver. On l'attendait d'ailleurs avec beaucoup d'impatience. Et ça envoie du lourd, puisqu'on y apprend déjà que, je cite, « la lutte contre le chômage de masse et la précarité de l'emploi est une priorité absolue du gouvernement. C'est pourquoi il a engagé depuis 15 mois une réforme systématique du marché du travail. » C'est vrai qu'on en a longuement parlé ici, les ordonnances travail, c'est vraiment une amélioration notable de nos conditions de travail et d'existence.
Et des salaires, c'est sûr.
Ouais, c'est une grande avancée pour l'histoire des travailleurs.
Du monde ouvrier.
Donc, on sait maintenant que ce changement interviendra d'ici fin janvier 2019, en tout cas que les négociations devront commencer d'ici 4 mois. Alors, vu ce que promettent les négociations, je conseille à toutes celles et ceux qui voudraient entamer une formation, changer de statut ou faire valoir leur droit d'option, de courir très très vite à Pôle emploi avant fin janvier, parce que c'est pas sûr que toutes ces choses existeront encore dans 6 mois. Alors, on va faire un rapide tour d'horizon de ce que nous dit cette lettre de cadrage, qui doit donc servir de base aux négociations à venir. Alors, effectivement, ça sert à quoi une lettre de cadrage? En fait, Édouard Philippe, il demande par cette lettre aux partenaires sociaux de plancher sur les différents points de négociation qui sont proposés par le gouvernement. Et donc, parmi ces points, il est prévu, d'une part, une renégociation du système de cumul d'allocations et de salaires, ainsi que des droits rechargeables, contre lesquels, je vous rappelle, on s'était battu en 2014. Alors, ce système de droits rechargeables, il était censé inciter les demandeurs d'emploi à reprendre une activité professionnelle, y compris courte, puisque les droits rechargeables permettent l'ouverture de nouveaux droits dès qu'on a travaillé plus de 150 heures, contre 400 avant 2014. Alors, pour l'actuel gouvernement, cette possibilité incite surtout les salariés à accepter plein de contrats courts, mais non pas à pérenniser leur emploi. Pardon. Donc, a priori, selon Édouard Philippe, c'est un choix des salariés que de préférer des contrats courts plutôt que des CDI. Alors, je ne connais pas grand monde qui refuse un CDI pour un contrat de 3 semaines, mais sait-on jamais. Pour ce qui est du cumul du chômage et du salaire, le gouvernement note que la compensation des revenus en cas de reprise d'une activité à temps partiel, donc c'est-à-dire que vous savez, si vous avez travaillé à temps plein et que vous avez une indemnisation du chômage à temps plein, si vous reprenez une activité à temps partiel, Pôle emploi va compenser pour que vous n'ayez pas de perte de revenus. Alors, aujourd'hui, le gouvernement considère que ça ne permet pas un retour à l'emploi, alors que les temps partiels, on sait très bien qu'ils ne sont pas le choix des salariés, que souvent, c'est des horaires en coupure qui sont particulièrement contraignants, fatigants et qui ne permettent effectivement pas le cumul avec un autre emploi. Je pense notamment aux femmes de chambre qui ont souvent des contrats courts et à toutes les femmes de ménage d'ailleurs. Les patrons, ils demandent une flexibilité bien plus grande à ces salariés-là. Mais tout ça, c'est la faute des travailleurs et travailleuses et pas de celles et ceux qui les embauchent et qui augmentent leurs profits en réduisant les horaires de travail et le salaire. Mais Édouard Philippe nous rassure, cette situation n'a rien d'une fatalité. Elle n'est pas le fait de la volonté des personnes, mais le produit des règles qui ne sont pas suffisamment orientées vers l'incitation au retour à l'emploi durable et qui n'incitent pas suffisamment à une meilleure organisation du travail plutôt qu'à un recours coûteux à l'assurance chômage comme facteur de flexibilité. Donc l'idée, c'est d'empêcher les travailleurs de réduire leurs revenus mensuels en cas de contrat court ou à temps partiel plutôt que d'aller taper sur les patrons. Ensuite, le salaire journalier de référence devra être révisé à la baisse, notamment pour ces contrats courts qui ont l'air vraiment d'être le leitmotiv d'Édouard Philippe. Donc c'est assez contradictoire finalement avec ce qui a été dit avant, puisque en fait les nouvelles mesures, elles vont permettre de favoriser des contrats longs à temps partiel, c'est-à-dire que pour le moment, effectivement, si on a plusieurs contrats courts, on va avoir une indemnité chômage plus élevée que si on a un long contrat à temps partiel. Et qui plus est, donc tout en empêchant d'un côté le recours aux contrats courts, le gouvernement entend abandonner le système de malus qui venait sanctionner les entreprises qui abusent des contrats courts. Donc c'est-à-dire que c'est juste les travailleurs et les travailleuses qui vont être moins bien rémunérés en cas de contrat court, mais les employeurs pourront y recourir plus facilement et sans sanction. Il est également prévu la création d'une nouvelle allocation appelée ACLD, allocation chômage longue durée, qui devrait remplacer l'actuelle ASS, allocation de solidarité. Et enfin, la création d'une allocation pour les démissionnaires et les indépendants. Ça avait déjà été annoncé pendant la campagne. Ça fait un moment que Macron se base là-dessus pour arracher les voix, notamment des travailleurs indépendants. Alors, dans ce beau cadeau au patronat qui s'annonce, le gouvernement exhorte les organisations syndicales à favoriser les négociations par branche et par entreprise. Donc, négociations qui sont permises notamment par les les merveilleuses ordonnances. Donc, on remercie Emmanuel Macron de rendre si simple la vie des travailleuses et travailleurs par des réformes toujours plus favorables au dialogue social. On remercie aussi toutes les organisations syndicales qui ne manqueront pas de vendre les chômeurs au diable capitaliste en leur promettant des conditions d'existence toujours plus précaires et du flicage permanent, histoire de bien se sentir exclu de ce monde merveilleux qu'est le travail. On fait déjà un gros bisou à Laurent Berger de la CFDT et à Pascal Pavageau de Force Ouvrière qui ont déjà annoncé qu'ils se rendraient à la table des négociations et qu'ils étaient prêts à négocier notre cul à toutes et tous. Et ce, dans les plus brefs délais. Merci à eux, les gars. On vous oubliera pas.
Merci de ne pas nous oublier. Alors, on va partir aussi du côté de Morissève. Lycée a été occupé.
Ouais, on retourne à Lyon, on passe au local. Et donc, on va parler de l'occupation de l'ancien collège Morissève. C'est un ancien collège, donc il n'est pas utilisé en tant que collège maintenant. Et ça fait déjà un moment que le collège est occupé pour héberger des mineurs isolés qui dorment depuis plusieurs semaines dans un jardin des pentes de la Croix-Rousse. Cette occupation n'a été rendue publique que samedi dernier et la police est venue en masse dès dimanche, sans aboutir à une expulsion. Un huissier est passé aujourd'hui et on en saura un peu plus sur la date d'un procès prochainement. Mais surtout, ça veut quand même dire que le squat est reconnu comme occupé et qu'a priori, il n'y aurait pas d'expulsion illégale. Parce que ce n'est pas le premier bâtiment ouvert pour ces mineurs. Ils ont tous été expulsés, les précédents bâtiments ouverts, sans passer par une procédure d'expulsion.
Maintenant, il commence à faire froid et il est encore plus urgent que ces mineurs soient hébergés. Pour s'assurer que cette expulsion prématurée n'ait pas lieu, voire qu'il n'y ait pas d'expulsion tout court, vous êtes invité à aller les voir, à créer des contacts avec eux, à apporter de la bouffe, plutôt des trucs qui se conservent pas trop mal sans frigo, puisqu'ils n'en ont pas encore. D'ailleurs, si vous en avez un en rab, amenez-le dans 2-3 jours, le temps qu'il s'installe un peu. Surtout, tenez-vous informé et n'hésitez pas à vous rendre sur place aux signes d'expulsion. Puisque l'expulsion, même si vous ne l'empêchez pas, c'est toujours bien qu'il y ait des témoins d'une expulsion illégale. Je vous donne l'adresse, c'est au 8 rue Louis Thévenet, 69-004, donc 44e à Lyon. Et on va passer au dossier sur...
Juste si vous voulez suivre les infos sur ce qui va se passer dans ce quoi dans les prochains temps, il y a toujours le site Rébellion qui est le site d'info. Là, ouais. Il y a notamment un repas qui est organisé dès demain midi, donc on vous invite à y venir.
Qui n'est pas encore annoncé, mais qui le sera
très... Si, qui est déjà annoncé, il y a déjà en ligne. Quoi.
Ok, tout à l'heure, c'était pas le cas. Super.
Et donc, continuez là sur Rébellion, il y aura des campagnes de dons, notamment financières, qui vont arriver. Donc voilà, merci à vous.
On va passer à notre reportage sur la manifestation contre la procédure Dublin de mercredi dernier.
Excusez-moi, voilà, nous sommes très ravis encore ce soir, et c'est toujours la même manière. On vient dire bonsoir à monsieur le préfet. Est-ce qu'il est là? Et s'il n'est pas là, je sais qu'il a ses représentants. On est là, on est là, même si vous ne voulez pas, nous on est là, pour la lutte des sans-papiers. Pour la paix, l'égalité, même si vous ne voulez pas, nous on est là, on est là, on est là, même si vous ne voulez pas, nous on est là, pour la lutte des sans-papiers, pour la paix, l'égalité, même si vous ne voulez pas, nous
on est là. Bon, j'ai eu l'homme, Alpha Ibrahim Kabila, qui va? Je suis demandeur d'asile. Je suis venu en France, ça fait un mois, un an, quatre mois. Maintenant, aujourd'hui, pour nous, notre manifestation est basée sur la procédure Dublin, pour l'annulation de cette procédure qui nous fatigue, que l'État et les plombs ont mis en place l'érasion. Ils ont mis ça en place pour presque déstabiliser les immigrés. Aujourd'hui, nous sommes là pour demander au préfet, parce qu'il a la possibilité de changer notre demande d'asile en procédure normale. Il a le droit de changer ça. Nous avons choisi d'être en France et nous aimerons aussi rester ici, pour vivre éternellement ici.
Alors si on revenait...
Je ne sais pas si le reportage était vraiment fini.
Non, mais je pense qu'il y a eu un petit souci avec le reportage, mais c'est pas grave. Du coup, ça nous laisse 3 minutes pour faire un petit agenda, peut-être.
Parfait.
Eh bien, on va faire un magnifique petit agenda en 3 minutes. Alors, dans les événements qui vont arriver cette semaine, le reportage sera en ligne quelque part, on vous permettra de l'écouter, vous n'en faites pas. Mais on sait que vous l'attendez avec une grande impatience. Donc après ce magnifique teaser, dans les infos de la semaine, on a dès demain, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, une cantine de soutien aux mineurs isolés de la Croix-Rousse qui est donc organisée dans le nouveau squat qui est... situé dans l'ancien collège Maurice XVI, qui est sur le plateau de la Croix-Rousse, où vous trouverez facilement là en je crois que c'est rue Thévenet, vous trouverez facilement l'adresse sur internet de toute façon. Louis Thévenet, parfait. Bon, dans les infos un peu qu'on va sélectionner, parce qu'il y a des milliards de choses en permanence, on vous invite dès jeudi soir à la réouverture pour la saison 2018-2019 du bistrot de la Caisse de Solidarité. Donc qui a pour but, comme tous les premiers jeudis de chaque mois, de passer un moment convivial, tout en mettant un peu de côté de l'argent pour aider la Caisse de Sceaux et les prochains procès des camarades. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres, sinon, on a ça vendredi pour faire la fête. Il y a, en fonction de votre humeur, vous pouvez aller soit à la CNT pour regarder un documentaire à l'ombre de la République de Stéphane Mercurio, avec pas mal d'invités, ça peut être assez intéressant. Et si vous êtes d'humeur un peu plus festive, vous pourrez aller voir le concert du groupe antifasciste de la Galle, en fait, qui fête ses 5 ans. Et il y a aussi un concert au Toy Toy si vous souhaitez aussi. Donc il y a beaucoup d'activités festives vendredi soir. Il y a samedi différents débats.